84 de l'AFS, intitulé « Penser l'articulation des rapports sociaux de sexe, de classe, de race en sociologie des arts et de la culture ». On va continuer notre programme bien chargé d'hier, et aujourd'hui, on va commencer par une deuxième session. Alors, quand je dis deuxième session, c'est que c'est la deuxième partie d'une session qui s'appelait « Représentation des rapports de pouvoir au sein des œuvres ». Donc, hier, on a abordé des chansons françaises et des séries policières. Et aujourd'hui, on va continuer avec deux autres types d'œuvres. On va changer un peu de domaine, on va parler de cinéma documentaire et de littérature sur Internet. Alors, pour nous parler de ces sujets-là, on va écouter deux communications. La première communication sera donnée par Mélie Fraisse, qui est avec nous donc à distance depuis Toulouse. Est-ce que tu nous entends bien, Mélie ?
Je vous entends bien, je vous vois bien.
Alors, nous, on va peut-être essayer de monter un peu le son, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde t'entende très bien. Je ne sais pas comment on monte le son. Bon, écoute, ça a l'air d'aller. Je vais te mettre directement comme ça avec la salle. Ça sera plus chaleureux. Donc, Mélie va nous parler d'une recherche en cours menée avec Marie-Carmen Garcia. C'est bien ça ? Ah, on t'entend. Mélie va nous parler d'une recherche menée en cours avec Marie-Carmen Garcia qui concerne une littérature sentimentale sur Internet qui s'appelle les Thug Love. Et puis ensuite, on écoutera Gaël Marceau qui nous présentera une communication. Alors, Gaël Marceau a soutenu sa thèse ici il y a un an. Il nous parlera de recherche issue de sa thèse. Une thèse qui s'appelait « Prendre position en documentaire ». Ça, c'était pour la version short du titre, mais il nous en dira plus. Et donc, sans plus attendre, on va commencer par la communication de Mélie Fraisse. Et on t'écoute. Cette communication s'appelle, pour être précis, « Les Thug Love, représentation du sexe et de la race dans les rapports amoureux ».
Alors, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir raté cet avion hier soir. Voilà, et je remercie beaucoup les organisateurs et organisatrices du colloque qui me permettent quand même d'être là avec vous aujourd'hui, par visioconférence. Donc, la communication que je vous présente est issue d'un travail de 2 ans sur l'analyse des chroniques amoureuses publiées sur Internet et appelée Thug Love. Donc, c'est une étude que j'ai initiée avec Marie-Carmen Garcia. Et donc, ces chroniques mettent en scène des amours réels ou imaginaires de jeunes filles dites des cités et ou issues de l'immigration avec des mauvais garçons qui sont principalement des trafiquants de drogue. Alors, des trafiquants de drogue soit à l'échelle internationale, soit des trafiquants de drogue à l'échelle du quartier. C'est bon ?
Oui. Oui, ouais, c'est bon.
Moi, je pense que je perds le son un peu de temps en temps, mais je continue.
S'il y a un problème, je te le signalerai.
Ok, d'accord. Donc, l'intérêt de cette étude réside donc dans l'analyse de cette Thug Love qu'on peut définir comme un objet doublement dominé. Alors, dominé au sein d'un sous-champ littéraire, donc c'est le roman sentimental qui est lui-même dominé dans le champ littéraire. Et donc, la première phase de cette étude réside uniquement en une étude de corpus et donc on prévoit dans un deuxième temps de nous intéresser à la production et éventuellement à la réception. Et donc, pour aujourd'hui, je vous présente uniquement les premiers résultats de l'étude de corpus. Donc, on fait l'hypothèse au travers des éléments de contexte repérés dans ces chroniques, comme la connaissance de l'islam et de la culture des cités, que les auteurs sont des jeunes filles elles-mêmes issues des cités et ayant des ascendants turcs ou d'Afrique du Nord. Donc ce sont des auteurs et des objets littéraires jusqu'à présent peu présents dans les publications académiques. Et donc je vais m'attacher à démontrer dans cette communication 2 choses qui vont guider et structurer ma présentation. Tout d'abord que les Thug Love proposent des normes et des valeurs autonomes et hétéronomes par rapport au roman sentimental populaire et notamment par rapport à la collection Harlequin qui en constitue un des exemples les plus représentatifs. Et dans un deuxième temps, je vais analyser les représentations imaginaires de là où des masculinités et féminités musulmanes en milieu populaire. Et donc, ce qui me donne pour résumer une présentation en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les modèles amoureux et leur relative proximité avec Harlequin. Et dans un deuxième temps, je présenterai donc les modèles de genre et principalement une féminité érotisée associée au respect du principe de virginité. Donc, avant d'aller sur mes 2 parties, je vais rapidement faire un encart méthodologique. Si on peut mettre la diapo suivante, normalement.
Oui, c'est bon.
On va présenter un dendrogramme.
C'est bon.
Donc, au début, nous, avec Marie-Carmen Garcia, nous avons étudié une vingtaine de chroniques sur deux plateformes de diffusion, que sont Skyblog et Wattpad. Et nous avons décidé d'en étudier plus particulièrement quatre, puisque c'était les quatre qui étaient terminées. En effet, toutes ces chroniques ne sont pas terminées, donc certaines sont encore en cours d'écriture, et d'autres s'arrêtent après deux ou trois épisodes publiés sur Internet. Et donc, on a mené plus particulièrement donc une analyse quantitative et qualitative. Et donc pour l'analyse quantitative, elle a été menée par Webscraping afin de faire une analyse lexicométrique puis thématique à l'aide du logiciel Iramutec. Donc pour résumer très très rapidement, il s'agissait d'obtenir une classification en 6 classes de mondes lexicaux et de pouvoir déterminer les classes les plus proches et les plus éloignées entre elles, ainsi que leur représentativité dans le corpus étudié. Donc, je crois que sur la diapo, on voit les différentes classes.
Oui.
Oui. Donc, on avait les résultats donnent la première classe, qui sont les activités extérieures, la deuxième classe, qui sont les descriptions physiques, la troisième classe, les relations amicales, la quatrième classe, les relations avec la famille, la cinquième classe, les relations sexuelles, et la sixième classe, les activités intérieures. Et donc, à la suite de cette première analyse, il était paru que les classes 1, donc les activités intérieures, 2, description physique, et 5, les relations sexuelles, elles étaient les plus représentées dans l'intégralité du corpus. Donc, en fait, elles ont constitué les thématiques qui ont été principalement étudiées dans ce travail, de par leur caractère saillant. Ensuite, à la suite de cette analyse quantitative, une analyse qualitative a pu être effectuée, notamment pour étudier la relative distance et proximité avec les romans du genre sentimental et donc principalement avec les romans arlequins. Donc je vais passer maintenant à la première partie de ma communication, qui sont donc la présentation des modèles amoureux et de leur relative distance ou proximité avec les romans arlequins. Alors tout d'abord, le premier élément qui rapproche ces romances avec les romances arlequins, c'est la présence du fort intérieur féminin. Et donc si on regarde les études faites par Béatrice Damien-Gaillard sur les romans arlequins, on a bien affaire à une littérature réflexive, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur l'intériorité des acteurs et qui donne, selon un procédé de focalisation interne, qui donne le point de vue du héros ou de l'héroïne. Et donc, comme dans les romans sentimentaux populaires, dans les thug love, le point de vue adopté est celui de l'héroïne. C'est l'héroïne qui raconte l'histoire et qui se questionne sur ses amours. Et donc, cette intériorité féminine présente ici un double aspect. Donc, elle est, par le procédé d'écriture même, censée révéler les pensées, les émotions et les sentiments des auteurs, mais produit aussi des normes morales et pratiques pouvant contribuer à l'élaboration du fort intérieur féminin des lectrices. Et donc, en fait, dans les thug love, c'est l'argot fréquemment utilisé, le langage des rues ou l'usage de mots et expressions arabes qui favorise le contrat de lecture et conduit a priori l'électrice à retrouver du semblable. Alors là, si on peut, je crois que la diapo suivante, j'ai mis un exemple de chronique.
Oui, oui.
Vous me dites une fois que vous avez lu la diapo, peut-être. Là, c'est un extrait de blog. Hein. C'est vraiment un copier-coller sans correction des fautes d'orthographe ni de la langue.
Voilà, elle est affichée, la diapo, je pense que tu peux continuer.
C'est bon ?
Oui.
D'accord. Donc, le deuxième point, donc là, c'est un point qui va différencier un peu ces chroniques des romances, c'est l'islam et l'arabité en toile de fond. Donc, en fait, c'est la part de la race qui existe dans ces thug love. Alors, on retrouve ce qu'on peut appeler l'arabité dans les romans arlequins, c'est-à-dire que malgré leur caractère sériel et très stéréotypé, les romans arlequins comportent quand même quelques variations dans leurs intrigues amoureuses, et ces dernières se déroulent parfois ailleurs que dans les pays occidentaux où elles sont majoritairement installées. Donc, certaines histoires hein, des romans arlequins se passent à d'autres époques, donc on a la collection Les Historiques, mais aussi dans d'autres pays, comme la Scandinavie ou un royaume d'Arabie, avec des héros masculins qui a priori distancés de l'homme blanc et urbain. Donc c'est le cas du héros arabe de la série orientale. Et en fait, quand on lit un peu les études sur les romans arlequins, il s'agit en fait de l'arabe en tant que référent culturel à l'intérieur du savoir moyen de la lectrice cible du roman, de ses romans. En somme, l'arabe culturel unite se doit d'être brutal, sauvage, jaloux et polygame, mais les auteurs arlequins doivent respecter le motif final, le mariage de type strictement monogamique, impliquant la fidélité mutuelle. Et donc l'héroïne arlequin ne pourra jamais être amoureuse d'un arabe qui ne serait pas d'une classe sociale supérieure, hautement diplômée et présentant les attributs moraux et physiques du prince charmant. Le héros donc arabe arlequin, hein, il est par exemple émir, il parle français ou anglais parfaitement et son père ou sa mère sont d'ailleurs de l'une de ses nationalités et il est diplômé d'Oxford. Et la romance ne peut pas non plus déroger au contrat de lecture qui veut que les deux protagonistes convolent en juste noce et qu'un avenir idyllique se dessine devant eux. Donc, alors que la part de la race dans les Thug Love est sensiblement différente. Donc, la particularité en fait de ces romances, c'est qu'elles se déroulent quasiment à l'intérieur du quartier, donc des cités, et dans des familles, on va dire, issues de l'immigration, sont donc soit d'Afrique du Nord, soit turque. Donc comment on peut le voir ? Eh bien, les auteurs de ces chroniques illustrent leur récit avec des prénoms et du vocabulaire d'origine maghrébine ou turque. Et cela dit, alors que l'homme arabe d'Arlequin présente des attributs socialement valorisés dans la représentation romantique de l'amour, les héros arabes et turcs des Thug Love sont de basse condition, n'ont pas suivi d'études et ne présentent d'une manière générale aucune des caractéristiques de la romance sentimentale ou du conte de fées. Donc ils sont violents, trafiquants de drogue, délinquants ou truands. Ils adhèrent aux valeurs de la culture de rue et des gangs. Et à l'inverse des héroïnes arlequins, les héroïnes des chroniques internet tiennent des positions sociales beaucoup plus élevées que leurs compagnons. Elles sont issues de familles aisées et ont suivi des études. Donc ça, c'est la première différence. Il semble qu'il y ait une inversion en fait des positions sociales entre les héros arlequins et les héros thug, et entre les héroïnes arlequins et les héroïnes des chroniques internet. Et donc j'y reviendrai dans ma deuxième partie au niveau des modèles de genre. Et donc la part de la race est également évoquée au niveau de la virginité et des relations sexuelles. L'héroïne des thug love est manipulatrice, ambitieuse et sexy. Il y a une forte érotisation de son corps, mais elle se doit de rester vierge. Et la préservation de la vertu de l'héroïne, selon les préceptes de l'islam, ça c'est fréquemment évoqué, hein, est régulièrement rappelé pour nuancer les propos érotiques qui parsèment les descriptions des rencontres entre les héros. Donc les interdits religieux sous les termes « khlel », donc pur, qui est conforme aux préceptes de l'islam, c'est ce qui est permis, ou le ham, donc c'est l'impur, ce qui est interdit, sont fréquemment mobilisés dans le récit pour les actions mettant en jeu le corps ou les choses de l'amour. Donc en fait, on a une forte tension érotique qui est mise en scène au travers de descriptions de corps nus ou dénudés et par des représentations subjectives, mais ces descriptions et cette forte érotisation, en fait, n'est jamais envisagée du point de vue de l'impur. C'est-à-dire que le ham, donc l'impur, est évoqué uniquement quand la virginité de la jeune fille est questionnée. En d'autres termes, les protagonistes dorment ensemble, se frottent l'un à l'autre, sans éprouver du remords, mais ils ne font jamais l'amour. Alors, et là on a une première division, c'est-à-dire que si le héros peut avoir des relations sexuelles avec des filles, qu'il qualifie de ké ou kéba, ça veut dire des prostituées, et l'héroïne, elle reste vierge. Donc ça, c'est la diapo, je ne sais pas à quelle diapo on est, je crois que c'est la diapo 6.
Oui, on suit, Mélie.
Ouais, c'est bon ?
Oui.
D'accord. Donc en fait, on assiste à une première division des femmes. On a d'un côté des figures féminines qui sont connotées négativement à travers la prostitution, alors qu'elles soient réelles ou virtuelles, hein, puisque le héros, s'il a des relations sexuelles, c'est pas avec l'héroïne en fait, c'est uniquement avec des filles qu'il qualifie de prostituées, et il signifie d'ailleurs que c'est uniquement pour se soulager. Donc cette division des figures féminines, hein, connotées négativement, donc à travers la prostitution, et celle considérée comme positive, donc à travers la féminité mascarade, donc paraître féminine, n'est pas propre à ce type de chronique. Hein. Eugénie Lemoine Lucioni en parlait déjà, et on peut dire que cette division constitue un socle puissant de l'ordre de genre établi. Et donc sa présence saillante dans les chroniques conduit à nuancer les modalités de transgression de l'organisation dominante du genre que la dissymétrie entre les positions sociales des héros pourrait laisser entrevoir. Donc, ce qu'on constate dans un premier temps, en fait, si on fait une rapide conclusion entre les chroniques internet, donc les love et les romans harlequins, on a une proximité dans la structure du récit, mais on a une forte distanciation au niveau de la figure des héros et principalement au niveau de la division des figures féminines. Donc ça, c'est une première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'est également la part de la race sur laquelle je vais revenir dans un deuxième temps, et donc l'évocation de l'islam et de l'arabité en toile de fond. Alors, oui, bien, c'est bon ?
Ça va, on fait juste attention au temps, mais ça devrait aller.
Ah, pardon. Donc, je vais rapidement sur ma deuxième partie. Donc, c'est les modèles de féminité et de masculinité. Donc, comme j'ai déjà vu, petit rappel, donc on a une différence entre les héros harlequins, hein, et les héros TOG. Donc, le héros harlequin, ils sont plus vieux que la jeune fille, beaux, musclés, amers, ils portent une faille en eux. Donc, ça, c'est l'étude de Michel Coquillat. Ils sont macho, misogynes, brutaux et en position de pouvoir matériel et décisionnel. Alors, le héros TOG, lui, il est fortement dominé par l'héroïne du point de vue du capital culturel et scolaire. Donc, en d'autres termes, si le héros harlequin est un prince souvent diplômé d'une grande université parlant plusieurs langues, le héros TOG, lui, est un trafiquant de drogue et ayant quitté l'école précisément. Alors, on a également une forte distanciation avec les modèles féminins. Donc, le portrait de l'héroïne harlequin, c'est une jeune fille très belle, souvent issue de la classe favorisée, mais elle est peu sûre d'elle, ignorante de ses droits et des choses de l'amour. Un peu à l'image des oies blanches du 19e siècle. À l'inverse, l'héroïne Tug est en position de domination sociale et intellectuelle par rapport au héros. Elle a le langage et les bonnes manières de la jeune fille, hein, à l'inverse de ceux du garçon. Et elle est également ambitieuse, manipulatrice, capricieuse et est décrite de façon récurrente comme particulièrement sexy. Et l'autre différence, hein, c'est bien sûr ces modèles féminins différenciés. C'est-à-dire que les modèles féminins sont relativement homogènes dans la série Harlequin, alors qu'on constate des stéréotypes en termes de la race et du genre qui créent différents modèles de féminité dans les Thug Love et qui sont basés donc sur les figures positives et les figures négatives. Et donc ces figures, elles sont différenciées selon leur comportement sexuel, notamment par rapport à la virginité. Alors j'essaye de cette attitude vertueuse, hein, au-delà du respect de cette virginité, c'est aussi elle va donner rendez-vous aux héros dans la cité sous forme de rendez-vous caché, de messages par SMS ou par personne interposée. Et si les deux héros peuvent s'isoler du groupe, ils sont rarement seuls. Et en fait, la présence du groupe semble également aussi garante de la préservation de la bienséance, donc, ou de ce qu'ils appellent leur laine. Donc, si on fait une rapide analyse, en fait, l'identité arabe qui est revendiquée dans ces récits est renforcée par la défense du principe de virginité qui pourrait, comme l'explique Christelle Hamel, relever d'un processus de valorisation d'une identité stigmatisée. En gros, les figures féminines négatives, hein, donc la figure de la prostituée, hein, qui se livre à des relations sexuelles avec le héros, tiennent un rôle de faire-valoir des héroïnes dans la mesure où ces dernières sont d'autant plus valorisées qu'elles sont belles, intelligentes, séduisantes, mais qu'elles ne cèdent pas à la tentation de faire l'amour avec le héros. Et donc, si on suit les analyses de Christelle Hamel, on peut suggérer que l'on a affaire à un contre-racisme peut en accusation de traîtrise envers les femmes maghrébines qui adoptent le discours des Françaises. Donc finalement, on pourrait conclure sur cette globe en disant qu'il y a deux modèles féminins, c'est celui de la féminité contre celui de la virginité. Donc en fait, le modèle occidental de la sexualité, hein, donc la liberté sexuelle, les relations sexuelles hors mariage, différencie principalement les toglogues des romans arlequins. En effet, hein, le principe de virginité n'apparaît pas explicitement dans les romans arlequins, même si depuis quelques années, Arlequin a élargi ses collections en intégrant une série de livres érotiques. Donc, on pourrait dire que les Thug Love répondent, a priori, hein, à des logiques sociales de production et d'affirmation des identités racialisées des femmes en France. La différenciation entre les figures féminines des filles s'opère sur le registre culturel et religieux autour du degré d'émancipation vis-à-vis du principe de virginité. On constate que les héroïnes, comme certaines militantes de l'immigration étudiées par Marie-Carmen Garcia, ou les jeunes filles arabes, entre guillemets, hein, revendiquant le principe de virginité tout en rejetant l'image de filles soumises que leur proposent les représentations dominantes de la sexualité en France. Donc les héroïnes utilisent ainsi la coquetterie, donc de nombreuses descriptions de vêtements ou scènes de maquillage et la mise en scène sexy de leur corps. Donc à travers ce thème, féminité versus virginité, les récits en ligne ne convoquent cependant ni l'égalité sexuelle avec les hommes, ni une autonomie sexuelle complète des femmes. En effet, si elles stigmatisent pour elles les relations hors mariage, elles sont plutôt valorisées pour les garçons en leur conférant un statut de dominant, notamment par rapport aux autres éléments masculins de la chronique. Et cette fidélité affirmée, hein, aux valeurs de la communauté fait écho aux stratégies de négociation interculturelle de jeunes femmes qui obtiennent au moins tacitement la possibilité de prendre des distances avec le code de comportement ancestral à condition d'affirmer leur fidélité aux valeurs considérées comme emblématiques par leur groupe. Ainsi, la question sexuelle ne peut dans ce corpus être abordée que sous couvert d'une vertueuse protestation d'innocence. Au fond, les valeurs morales ne sont pas vraiment mises en cause. Et donc, les chroniques montrent ainsi une acceptation tacite de la domination masculine, dans laquelle la femme est un être perçu, soumis à une double contrainte de retenue et de séduction. Et donc, en fait, mettre en parallèle les romans sentimentaux et les thug love permet d'observer comment, dans un espace culturellement dominé, donc ces chroniques, à l'intérieur même d'un sous-champ dominé du champ littéraire, les romans sentimentaux, des normes de genre racialisées sont diffusées. On observe des proximités entre des romans sentimentaux et le récit internet, hein, notamment en ce qui concerne le fort intérieur féminin et l'amour impossible, mais en revanche, les chroniques se distinguent fortement en ce qui concerne la narration et l'articulation de la race, du sexe et de la classe sociale. Il faut que j'accélère, non ?
Oui, là, si tu pouvais conclure.
Je vous entends pas du tout, en fait.
Pardon, si tu pouvais conclure en une ou deux minutes, si c'est possible ?
Ouais. Donc, la thématique centrale, c'est bien sûr la préservation de la virginité de l'héroïne. Et elle est ici en congruence avec un modèle socialement valorisé des jeunes filles racialisées, une féminité érotisée associée au respect du principe de virginité. En somme, les Thug Love élaborent et renforcent un modèle culturel de genre dans lequel la relative dominance sociale féminine, les femmes qui détiennent des positions sociales supérieures aux hommes, est mise au service des hommes qu'elles aiment.
Alors, sans plus attendre, on va enchaîner tout de suite avec la communication de Gaël Marceau.
Ok, j'espère. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs. Vous m'entendez ou pas ? Ouais, ok. Les organisateurs, les organisatrices du colloque pour leur invitation. Je remercie Louis-Jésus d'accepter de discuter mon intervention. Je vais faire juste un petit point parce qu'il a été dit que c'était mon travail de thèse, que ce film était dans mon travail de thèse. En fait, il n'est pas. C'est une prolongation de mon travail. De thèse. J'ai étudié des films qui ont été produits entre 2000 et 2010, sortis entre 2000 et 2010, et celui-ci sort en 2014. Voilà, c'est plus un prolongement. Donc aujourd'hui, je vous propose une analyse sociologique du film Les Gracieuses, réalisé par Fatima Sissani, et sorti donc en 2014. Au centre de ce documentaire, six femmes, six amies, Kenza, Myriam, Khadija, Siem, Leila, Rokia, âgées entre 21 et 29 ans. Elles se connaissent pour la plupart depuis la plus tendre enfance, car elles ont grandi, pour la plupart, dans le même bâtiment de la cité des Mordacs à Champigny. Les Gracieuses, c'est d'abord un documentaire sur l'amitié. Et à ce titre, le film montre de nombreux gestes d'attention des unes envers les autres, autant d'éclats de rire et des éclats de rire collectifs. Cette amitié, elle est montrée aussi à travers le mariage de l'une d'elles et la préparation de l'événement par le groupe. C'est le mariage de Rokia, qui est là, en bas à droite. Ce qui est important, c'est que lors de l'entretien que j'ai fait avec Fatima Sissani, avec la réalisatrice, elle m'expliquera que cette amitié, c'est la véritable toile de fond du film. Et je reviendrai là-dessus. À côté du thème de l'amitié, et sans que cela constitue une contradiction, Les Gracieuses, c'est aussi un film sur des expériences vécues par ces six amis. Et sur leurs opinions au sujet de leurs conditions de femmes, de jeunes femmes, associées à l'immigration postcoloniale algérienne, malienne, de leur appartenance aux classes populaires, et du lien qu'elles entretiennent à la banlieue, à la religion, à leur famille. Donc, si j'ai choisi de travailler pour ce film, c'est justement pour la multiplicité des rapports sociaux, de classe, de race, de sexe, de génération, des effets de lieu, la cité, la banlieue, du lien à l'immigration, qui font le quotidien et l'histoire de ces six amis. Donc, point important, ces rapports sociaux, ils apparaissent aussi bien dans les propos, dans les paroles des filles, des amis, que dans les choix de réalisation de l'équipe documentaire. Et j'entends par choix de réalisation un ensemble assez vaste, ça va des questions posées, le choix du lieu de tournage, le cadrage, le montage, la structure du film, et on pourrait prendre aussi la dimension sonore musicale du documentaire. Et donc dans cette communication, j'expliquerai en fait comment et dans quelle finalité sont donnés à voir les rapports sociaux de classe, de race, de sexe et d'autres rapports sociaux de domination. Pour ce faire, je vais d'abord revenir sur la structure du récit documentaire, puis sur le choix du dispositif filmique, et dans un troisième temps, je vais analyser la place singulière occupée par l'immigration et la banlieue. Au final, je vais conclure autour de contraintes invisibles qui, à mon avis, expliquent les représentations présentes dans le film. Donc, premier point, une structure par grande thématique. Le documentaire débute par une présentation des six protagonistes, sur le mode suivant, en fait. L'une dresse le portrait de l'autre. J'aurais aimé vous le montrer, mais sinon je vais être un peu short au niveau de la présentation. Donc j'aurais aimé, voilà. Donc Myriam évoque Leïla, Leïla parle de Myriam, Rokia décrit Khadija, etc., etc. Ça se fait un peu sur ce mode-là. Donc là, j'ai fait des captures d'écran pour l'introduction du film. Ce qu'il faut penser, c'est que c'est en mouvement, qu'il y a une voix off et que c'est caméra à épaule. Ça donne vraiment une impression de mobilité. Pour les filles, elles parlent en voix off. Donc voilà, le tout tourné plan, caméra, épaule pour montrer leur mobilité. Et c'est sur fond d'une musique haletante et joyeuse. Dans la seconde séquence, la caméra est sur pied. Elle regarde des photos tirées d'albums. Occasion pour le spectateur de comprendre que leur amitié existe depuis la plus tendre enfance. Qu'elles ont vécu dans le même immeuble, que leurs parents se connaissent et que leurs compagnons ou futurs compagnons devront s'adapter à cette amitié. Donc à la suite des deux séquences qui consacrent pleinement l'amitié entre ces femmes, le film se structure autour de six grandes thématiques. Après on pourra discuter ce découpage-là, est-ce qu'il est pertinent. Mais c'est celui que j'ai choisi. Donc il y a premier, donc l'école, les études, le travail. Deuxième, la langue française. Troisième, être une fille en cité. Quatrième, la banlieue versus Paris. Cinquième, inégalité économique des chances et le racisme. Et sixième, l'immigration et leur rapport à la France. Et pour chaque thématique, les six jeunes femmes reviennent sur leurs expériences personnelles et donnent à entendre leur opinion. Donc, je vais prendre l'exemple d'une séquence qui est consacrée à l'école, aux études, au travail. Donc certaines évoquent le diplôme qu'elles ont obtenu, d'autres l'absence de diplôme, et toutes parlent de leur emploi, de l'emploi qu'elles occupent actuellement. Le découpage par thématique, en fait, respecte les différences de parcours et d'opinion entre... c'est assez important, je reviendrai là-dessus, de respecter les différences de parcours et d'opinion, et en même temps, il fait ressortir une voix commune à propos d'un sujet donné. Donc pour ce premier thème, elles sont nombreuses à faire valoir le fait qu'elles aiment et valorisent la dimension sociale et utile du travail d'infirmière, de masseuse, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture. Et ce découpage est aussi l'occasion de voir des critiques qu'elle porte au sujet, sur des sujets bien précis. En l'occurrence, par exemple, l'école. Myriam, elle dira « l'école n'a rien fait pour que je l'aime ». Ou Sienne, elle va revenir sur ses études d'infirmière et elle explique qu'elle était perçue comme la fille de banlieue lors de ses études. Donc formellement, ce que fait ce découpage, c'est qu'il se fait sur un mode implicite. Comment il se fait ? Il se fait sur un mode implicite à partir de la parole des interviewés, sans utiliser de carton ou de voix off. Et on retrouve ici une convention au sens de Becker, qui est validée dans le documentaire de création, qui vise à ne pas expliciter un propos au spectateur et de lui laisser opérer lui-même les liens. Donc, premier résultat, les mises en scène des rapports sociaux s'inscrivent nécessairement dans des façons de faire qui sont déjà existantes et validées en documentaire. Et c'est le second film de Fatima Sissani, après La langue de Zara. Les Gracieuses reçoit une aide à la production du CNC, pas de l'accès, mais une aide à la production. Il n'est pas distribué en salle, parce qu'ils n'ont pas de distributeur, enfin, ils n'ont pas cherché de distributeur, donc il va être diffusé dans des festivals, dans des structures militantes, ici même, etc. etc. Donc il est montré en festival. Donc, à tous ces égards, il doit être analysé, depuis les normes et les contraintes d'une pratique singulière qui est la pratique documentaire. Deuxième point, le découpage par thématique qui permet d'articuler les rapports sociaux de race, de classe, de sexe et d'âge, plus précisément de les inscrire dans des vécus, dans des expériences racontées, de les considérer depuis, par exemple, le travail, le lieu d'habitation, la vie des parents, etc. Et pourtant, dans les propos des intervenantes filmées, le racisme ou les rapports de classe ne sont pas évoqués sur le mode d'une addition, en fait, comme pourrait le laisser penser une lecture intersectionnelle. Alors oui, il y a une série de mécanismes de domination qui sont successivement évoqués, mais ce qui est en jeu, c'est aussi de montrer la capacité d'analyse des personnes filmées, des personnes interviewées. C'est-à-dire que sur des sujets, elles sont en mesure à la fois de fournir des exemples et en même temps de donner du contenu à leur récit. Et c'est donc depuis les capacités et non uniquement depuis les dominations que ce film peut se lire, peut se voir. Donc en guise de transition, on observe également que dans ce découpage par thématique, repose sur des choix. Et dans Les Gracieuses, par exemple, le rapport au militantisme, il n'est pas évoqué. L'est très rapidement le rapport à la religion ou à la sexualité. Les inégalités de sexe ou l'islamophobie sont moins développées dans les propos des intervenantes filmées. Et donc, ce découpage par thème, il procède donc de choix qui doivent être aussi pensés à partir des préjugés que la réalisation souhaite remettre en cause. Et c'est donc mon point suivant. Un dispositif cinématographique pour répondre aux clichés. Donc énergie et vitalité des intervenantes filmées. Les six amis sont donnés à voir comme des personnes mobiles, toujours en déplacement et au final qui ne seraient pas assignées à un lieu en particulier. On peut également noter la présence de nombreux moments en rire, en groupe et d'autodérision qui participent à montrer ces filles comme fortes et qui évitent toute présentation victimaire. En insistant sur cet aspect, la réalisatrice, elle explique lors de l'entretien qu'elle souhaitait retourner les clichés sur la banlieue. Elle rappelle que ce film est l'occasion de comprendre aussi des différences entre générations. Et ça, c'est quelque chose qui est assez valorisé en cinéma documentaire, c'est de prendre le cinéma documentaire comme une enquête, en fait. De ne pas savoir les résultats que l'on va trouver, mais d'enquêter. Et donc, une des questions, c'était de savoir, mais ces filles-là, on n'a pas les mêmes générations, comment on s'émancipe. Et Fatima Sissani, elle est née dans les années 60 en Algérie, de parents issus des classes populaires, et elle est diplômée de droit. Donc elle a fait des études, et à ce titre, les études lui apparaissaient, ce qu'elle m'explique, comme une voie d'émancipation. Et elle se demande, est-ce que pour ses six amis, c'est la même chose? Et dans ce film, en filmant, et elle le savait un peu par ailleurs parce qu'elle les connaît, je vous fais une petite parenthèse, en fait, c'est la tante d'une des filles. C'est une de ses tantes. Et dans le mariage, le marié, c'est son neveu aussi. Donc elle connaît ses filles depuis des années. Selon elle, ce qu'elle observe, c'est que c'est le travail qui joue davantage ce rôle d'émancipation que les études, que les études l'avaient été pour sa génération. Donc maintenant, comment penser les mises en scène de cette énergie, de cette vitalité, depuis la perspective de la réalisation? Ce film se concentre peu sur des petites subversions au quotidien. En fait, il va privilégier des prises de position critiques et des moments de vie joyeux. Donc Les Gracieux, ça fonctionne davantage sur la remise en cause de clichés médiatiques et politiques. Et à ce titre, ça ne cherche pas uniquement à éclairer des mécanismes de reproduction, de la domination, de classe ou du racisme. Donc le film ne nie pas ces dominations. Au contraire, elles sont largement évoquées. Mais il s'agit de ne pas se concentrer uniquement dessus pour les faire vivre comme seule lecture opérante qui, à elle seule, définirait et catégoriserait ces femmes. Donner à voir des individualités. Donc ça, c'est le mode un peu... c'est pour comprendre un peu le dispositif. Ça, c'est Siem. La caméra la suit dans la cité des Mordacs. Et après, c'est le mode d'entretien très posé, caméra plan fixe. Donc là, dans son lieu de travail, puisqu'elle est infirmière. Voilà, si vous voulez un peu l'esthétique générale du film. Les entretiens sont principalement faits plan fixe, caméra sur pied. Donc, donner à voir des individualités, la réalisatrice, elle privilégie la parole de ses filles. Elle ne vient pas en accoler une autre. Et elle privilégie donc globalement leur parole. À un seul moment, il y a un homme qui parle, c'est le patron de Myriam, qui est Monsieur Bloch, qui est un vieux monsieur, et qui, du coup, il y a une séance en cinéma direct à un moment donné. Voilà. Mais sinon, globalement, il n'y a que ces filles-là qui prennent la parole, qui parlent. Et privilégier quelques personnages, c'est une option de réalisation courante et largement valide en cinéma documentaire de création. Il ne s'agit pas non plus totalement de donner à voir, et là je vais citer Catherine Achin et Delphine Naudier, un entre-soi qui échappe aux formes d'encadrement familial et masculin. Je reprends cette expression-là. Disons que le film, en fait, il privilégie la parole des six femmes, mais sans nécessairement une remise en cause explicite, sans remettre en cause les formes d'encadrement familiaux masculins ou autres. En fait, voilà, ils ne sont pas remis en cause. Et on peut penser à une séquence sur les grands frères. À un moment donné, Leïla explique que c'est grâce à eux qu'elle est ce qu'elle est. Et elle ne veut absolument pas prêter aucune critique à l'égard de ses grands frères à elle. Et elle les remercie d'ailleurs. On pense également au discours des filles sur leurs parents. Elles reviennent sur la trajectoire, sur la vie, les difficultés de vie des parents. Et on sent un fort attachement. Voilà. Donc le système d'entretien individuel ou en groupe, et au final les choix des séquences retenues, participent à donner à entendre des opinions différenciées des intervenantes entre elles. Dans le groupe, elles ont différentes trajectoires scolaires et professionnelles. Et plus important, elles ont un rapport à la cité des Mordacs tout à fait différent. Donc toutes ne pensent pas de la même façon, c'est pas homogène. Dans l'optique de l'équipe de réalisation, il s'agit à la fois de montrer que cette amitié repose sur un groupe soudé, sans oublier les individualités qu'il compose. Et cette approche, en fait, elle s'intègre à un projet plus général, un projet politique du film, qui cherche à éviter les clichés sur les quartiers populaires et l'immigration. Et les entretiens individuels, ce dispositif-là, participe à mettre en exergue des différences entre les six amis. Il s'agit de donner à voir différents rapports sociaux tout en évitant un enfermement dans des catégories jugées réductrices, d'homogénéiser, de catégoriser. Donc, dernier point, avant-dernier point, immigration et quartier populaire comme axe central. Si vous voulez, c'était un peu le départ de ce pourquoi ce film aussi m'intéressait, c'est que j'avais l'impression qu'il donnait le primat à ces deux axes de lecture. Mais c'était la première fois que je l'ai vu, ça sert à ça aussi d'étudier. Ça m'a un peu remis, j'ai un peu remis en cause ma première lecture. Parce qu'en fait, ça s'agence autrement. Les rapports sociaux s'agencent autrement. C'est pas un primat unique. Voilà. C'est ce que je vais essayer de démontrer. Donc, dans les propos des six amis, l'immigration et l'appartenance à la banlieue reviennent avec plus d'insistance. Ça, c'est le panoramique de début de film. Mais il est très mal fait. Du coup, il aurait fallu que je mette plus de photos. Le film débute par un panneau gauche-droite de la cité des Mordacs et il finit par un panneau droite-gauche sur la cité des Mordacs, plus ou moins. Voilà. Donc c'est une inscription, c'est une spatialisation de l'action. Donc dans les propos des six amis, l'immigration et l'appartenance à la banlieue reviennent avec plus d'insistance, c'est-à-dire que pour chaque thématique, ce double éclairage est mobilisé. Juste après le premier quart d'heure, Sienne évoque son arrivée à l'école d'infirmière et explique avoir ressenti, je cite, « mon côté fille de banlieue et fille d'immigré ». On m'a appelé Zoubida. Un premier visionnage pourrait laisser penser à un primat de l'immigration et des quartiers populaires, qui éluderait des lectures en termes de classe, de race, de sexe. Et effectivement, dans les propos de Leïla, laisse cette impression-là. Elle revient sur son rapport à la langue française et dit ne pas maîtriser aussi bien qu'une fille qui vit à Paris cette langue. Je la cite, « Voilà, je pense, tu grandis à Paris, tu peux être arabe, noir, juif ou n'importe quoi, tu as beaucoup plus de facilité à t'intégrer à d'autres groupes, à d'autres classes sociales. » Donc, toutefois, les amis se différencient, comme je l'ai expliqué, et elles se différencient aussi par leurs propos. Et Myriam, dans la séquence suivante, mobilise d'autres rapports de classe, de sexe, de race, pour parler de son lieu de travail, le 16e arrondissement. Et je la cite, « Ce qui me gêne, c'est que cela soit toujours nous qui bossons pour eux. C'est toujours les mêmes origines, les Arabes, les Noirs, les Portugais. Tu vois, toutes les femmes de ménage, elles sont portugaises dans le 16e. Voilà, moi, ça me gonfle. En plus, on est payé au lance-pierre. À la limite, tu bosses, mais tu n'es pas payé au lance-pierre. » Donc la séquence se conclut sur un plan de Myriam dans le métro, avec pour fond sonore l'instrumental de Banlieusard, qui est un titre du rappeur Kerry James. Quant à la question de l'immigration, elle apparaît implicitement lors d'une séance de rupture de jeûne, mais elle est présente dans leurs propos et elle devient pleinement centrale. Un quart du film est consacré à la fin à cet enjeu-là. Et elles vont se positionner sur les questions d'immigration, de rapport à la France, d'intégration. Si immigration et quartier populaire occupent une place centrale tant dans les paroles que dans les choix de réalisation, la lecture de classe reste malgré tout présente et revient donc deux fois avec force. Le terme classe est même employé explicitement par Khadija. Idem pour les lectures en termes de race. Et si le film ne contient pas de propos explicitement féministes ou revendiqués comme tels, privilégier la parole de ces six femmes inscrit le film dans des rapports sociaux de sexe. Et je reviendrai sur la question du féminisme, si vous voulez, autour de ça. Donc sexe, race, classe ne sont pas à proprement parler mis de côté dans ce film. Ils viennent en réalité à être évoqués ou montrés depuis la question de l'immigration ou du fait de vivre en cité. Et c'est depuis cette double réalité que les six amis interviennent et que la réalisatrice sélectionne les propos. Donc cet attachement, on peut le resituer aussi bien dans la trajectoire familiale de la réalisatrice, née en Algérie, issue des classes populaires et qui a vécu en banlieue, et qu'à travers aussi sa trajectoire professionnelle, en fait, puisque c'est une manière pour elle de prolonger et de questionner, tout en changeant d'objet, des questions qui sont associées à l'exil, à l'identité. Voilà. J'en viens rapidement aux contraintes invisibles du... Non, ça ne marche plus, c'est pas grave. Quatrième point. Je vais dans un dernier temps en fait fournir des éléments à même d'expliquer l'absence ou la relative absence de certaines thématiques et d'éclairer l'importance des lectures en termes d'immigration et de banlieue. Donc tout d'abord, il y a des scènes. Les scènes sont aussi choisies en faisant attention à ce que les six filles ne pâtissent pas dans leur vie quotidienne et au moment de présentation publique de l'image qui est faite d'elles dans le film. Ainsi ont été enlevées des scènes qui auraient pu participer d'une articulation des rapports sociaux de sexe et de classe. Et lors de l'entretien, Fatima Sissani, elle m'explique que l'une d'elles, par exemple, justifie face caméra la vente de drogue chez les garçons dans le quartier, puisque ces derniers sont réprimés et exclus de la société, je cite, et n'auraient pas d'autre choix. Et ce passage paraissait super intéressant pour la réalisatrice, puisqu'il pointe en fait une réalité donnée et que c'est évoqué avec force par l'une des interlocutrices. Mais à regret, elle m'explique qu'elle a dû enlever cette séquence pour éviter que la fille ait des ennuis. Donc, cette contrainte, elle explique aussi pourquoi le film n'aborde pas explicitement, c'est-à-dire depuis la parole des interviewés, la question du féminisme. Fatima Sissani trouve qu'elles ont par leur sororité une attitude féministe, sans pour autant en avoir le discours. Et pour éviter de reproduire des visions perçues comme caricaturales, la réalisatrice a préféré enlever certains passages du film. Il y a un deuxième principe de sélection des séquences, qui est à côté du souci de l'autre, et dans le cas du féministe, il s'agit aussi pour la documentariste d'éviter d'imposer des enjeux qui ne sont pas partagés par les filles, par le groupe d'amis. C'est-à-dire, elle m'explique qu'en fait, le féminisme, c'était ses questions à elle et que c'était faire une imposition de problématique, en fait. Bon, c'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais elle aurait imposé ses vues. Donc, elle a préféré éluder ces séquences-là. Il y a un troisième principe de sélection des séquences qui sont également enlevées car elles font s'éloigner, si vous voulez, du fil conducteur. Et c'est le cas de la religion qui n'est pas évoquée. Khadija et Myriam, elles ont une pratique de la religion musulmane et catholique en même temps par leurs parents. Il y a des séquences à l'église, il y a des séquences de rupture de jeûne, et ça, elles ont été enlevées, ces séquences-là. Ça ne collait pas au fil conducteur narratif. La réalisatrice, elle émet aussi un propos qui est intéressant, à la fois en termes d'autonomie de la pratique documentaire vis-à-vis du journalisme et d'autonomie du débat autour de l'immigration et des banlieues, vis-à-vis d'enjeux à succès consacrés par le champ journalistique et politique. Rétrospectivement, elle explique avec ce film avoir voulu trop coller au débat et aux enjeux publics. Ce qui veut dire avoir trop voulu apporter une réponse à des débats. Et je pense que ça fera écho à la table ronde d'hier. Et donc pour la citer, je ne crois pas que je referai un film en réaction à un regard. Je réfléchis comment je l'ai pensé. J'avais envie de montrer l'amitié, pas pour dire qu'il y avait de l'amitié en banlieue, mais parce que je trouve ça beau de montrer l'amitié. Je trouve ça beau de montrer l'amour. Tu vois la partie sur l'identité, sur l'intégration, je regrette presque ces séquences-là, parce que pour moi, elles sont des concessions qui sont faites au débat actuel qui est insupportable, et où je me demande s'il ne faudrait pas l'ignorer. Et c'est comme si ce regard-là était prépondérant, il nous parasite en fait, il nous empêche de nous poser des questions à nous-mêmes, et du coup, d'être dans une vraie exploration. Donc la réalisatrice parle d'un regard blanc, de regard blanc, de regard dominant, et elle revient sur la violence que produit ce regard, notamment dans ce qui l'empêche d'explorer en tant que réalisatrice et pour les personnes filmées. Ce regard qui s'impose, c'est aussi à partir de lui et contre lui que se lisent les mises en scène des rapports sociaux de classe, de race, de sexe dans les documentaires. Donc en conclusion, rapidement, pour résumer, j'aurais montré que ces rapports sociaux sont donnés à voir depuis des choix formels et des dispositifs cinématographiques et des conventions valides en documentaire. Que l'articulation se fait dans Les Gracieuses à partir d'un double éclairage, banlieue et immigration, qui prime sans éluder pour autant d'autres rapports sociaux. Et enfin, que les mises en scène du sexe, de la classe, de la race, dépendent in fine des enjeux médiatiques et politiques investis et d'images permettant de lutter contre des enjeux. Je vous remercie.
Alors, je vous entends, mais je vous vois plus. Ah si, ça y est, je vous vois. Ah,
bah alors, je te mets face, d'abord à moi, parce que j'ai une petite intervention à faire, et puis ensuite face à la salle. Alors, je vous remercie pour ces présentations. Comme on a un peu de retard, je vais essayer de faire bref. Et donc, je vais m'en tenir à... Tu nous entends plus ? Alors, je vous remercie pour ces présentations. Ce que je trouve très intéressant dans vos présentations à tous les deux, c'est qu'on voit bien comment l'art, en tout cas des expressions artistiques, offre à des femmes multidominées, racisées, des classes populaires, des quartiers populaires, des possibilités de proposer un récit à la première personne ou bien face caméra, dans le cas du documentaire évoqué par Gaëlle, un récit de leur existence, de leur mode de vie, un récit de leur représentation qui est généralement peu diffusé. Et puis on pourrait aussi citer d'autres pratiques, comme pour ceux et celles qui connaissent les story time sur YouTube, qui sont aussi des récits de jeunes filles des quartiers à la première personne. Bref, c'est donc une bonne occasion pour ces filles d'exprimer ce discours, sauf qu'on voit bien à travers vos présentations qu'en même temps, le dispositif artistique, il n'est pas neutre. Il ne propose pas un discours qui est complètement autonome, qui est complètement brut, et que le dispositif artistique, il fait quelque chose à ce récit. Le dispositif du film, il coupe, il monte, et puis le dispositif de la chronique littéraire sur Internet, il déforme, il enjolive, il simplifie éventuellement. Et puis surtout, ce que vos communications ont bien montré, et c'est un véritable apport, c'est que ce dispositif artistique, il propose une certaine vision de l'articulation des rapports sociaux de domination. Éventuellement, il en élude certains, éventuellement, il insiste plus sur d'autres.
Et ça m'inspire du coup deux questions. Alors je vais essayer de faire bref et je vais m'en tenir à une question transversale pour tous les deux. Et puis ensuite une question peut-être plus spécifique pour Mélie. Alors la question transversale, c'est de se dire que à travers vos présentations, on a un récit féminin des jeunes des cités. Donc on serait tenté hein, pour bien comprendre la façon dont ces rapports de genre s'imbriquent, de décliner un peu le côté masculin des personnages qui sont évoqués dans ces chroniques et dans ce film documentaire. C'est-à-dire, alors, par exemple, Mélie, dans ta présentation, tu as évoqué quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, qui est le fait que la virginité est une valeur emblématique pour ces jeunes filles, et c'est-à-dire qu'on peut se permettre des transgressions avec d'autres formes de féminité du moment qu'on conserve cette valeur emblématique qu'est la virginité. Donc du coup, si on retourne un peu la focale, j'ai envie de te demander, dans ces récits, quelle serait la valeur emblématique des jeunes garçons racisés, arabes, ou turcs et ou musulmans ? Est-ce qu'elle apparaît ? Est-ce qu'il y en a une qui apparaît de la même manière ? Est-ce qu'eux aussi, ils peuvent jouer avec certaines formes de masculinité du moment qu'il y a une valeur emblématique qui est conservée ? Si oui, laquelle ? Ça serait ma première question. Et qui s'adresse aussi un peu de la même manière à Gaël, c'est-à-dire que on voit bien dans ce film documentaire que la réalisatrice met l'accent sur l'amitié. L'amitié comme une ressource. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup évoqué dans beaucoup de documentaires. C'est-à-dire que, oui, l'amitié pour des personnes multidominées, ça apporte du soutien, ça apporte du réconfort, y compris moralement, et ce n'est pas négligeable. Et on pourrait se demander aussi s'il y a d'autres films sur les garçons des cités qui permettent de comparer si, pour les garçons aussi, l'amitié, ça peut être une ressource ou non, ou pourquoi, bref. Est-ce que ça fonctionne aussi ? Et puis ensuite, j'ai une autre question plus spécifique pour Mélie. Cette question spécifique, avant de proposer à la salle d'intervenir, ça serait de réfléchir un peu quand même sur la production de ces récits. Alors même si, éventuellement, enfin, j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas en parler tout de suite parce que c'était un prochain volet de votre enquête, je crois. Mais en tout cas, la production de ces chroniques littéraires, notamment sur Wattpad, il me semble qu'elle n'est pas non plus complètement autonome, c'est-à-dire que comme c'est une plateforme, un réseau social, les lecteurs, les lectrices, du coup, j'imagine souvent, peuvent faire des commentaires aux auteurs et leur dire « Ah oui, j'ai bien aimé ce que tu as raconté là et j'aimerais bien que la semaine prochaine il se passe ça parce que ce personnage, je ne l'aime pas trop. » Voilà, et donc du coup, il y a une interaction qui éventuellement peut, et c'est ma question, peut-être jouer sur la trame narrative. Alors, est-ce que voilà, il y a une co-construction du récit entre les auteurs et les lectrices ? Voilà, je vous remercie. Et puis, je vous remercie aussi d'essayer de répondre pas trop longuement pour pouvoir proposer à la salle d'intervenir. Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre.
Comme j'ai pris beaucoup de temps à Gaël, si Gaël veut répondre, il a droit, je
ne
vous entends plus en fait.
Gaël, il te propose de répondre en premier quand même.
Donc c'est moi qui commence ?
Oui, et on t'entend bien, ne t'inquiète pas.
D'accord, moi je vous entends très mal en fait.
Mais donc, nous on t'entend bien.
Donc la première question, ce serait la valeur emblématique en fait des figures masculines, et bien ce serait ce qu'on pourrait appeler la musculinité. Donc c'est la triade définie par Connell, c'est force, puissance, performance en fait. Voilà. C'est-à-dire que il peut montrer le héros peut montrer qu'il est amoureux de la jeune fille. Il peut même éventuellement laisser tomber certaines de ses activités les plus illicites, mais il peut pas déroger, on va dire, aux caractéristiques de la masculinité hégémonique que sont force, puissance et performance en fait, et brutalité, résistance à la douleur, on va dire.
D'accord, ça fait une valeur emblématique un peu plus large que la virginité. Enfin, il y a plus de volets, quoi.
C'est quand même tout est lié quand même à la force, en D'accord. fait. Donc que ce soit la force en termes de violence, c'est-à-dire on plaque au mur quelqu'un qui a essayé de draguer la jeune fille, que ce soit la force au travers des descriptions du muscle, voilà, ou que ce soit la force au travers de des positions hiérarchiques qu'il occupe au sein de l'organisation. En tout cas, c'est vraiment force, le force, puissance et on va dire violence.
Deuxième question peut-être.
C'est vrai que l'idéal, serait de faire une étude de l'intégralité de la production à la réception. Surtout que sur Wattpad, c'est possible parce qu'on a accès effectivement à certains commentaires de lectrices. Alors on va supposer que ce sont des lectrices, hein, parce qu'il y a des pseudos. Alors le principal problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir l'autorisation des auteurs, parce qu'on suppose que ce sont des jeunes filles, hein, mais pour avoir des entretiens en fait. Il y a une espèce de préservation de l'anonymat et du mystère qui fait que elles, pour le moment, elles répondent pas à nos demandes d'entretien. Donc ça va nous poser problème. Et donc le lien entre l'évolution de la narration et les commentaires des lectrices, eh bien, a priori, c'est relativement autonome puisque les auteurs ont l'air assez, elles sont assez vindicatives quand on leur impose, quand les lectrices leur disent par exemple, moi ça me plaît pas la relation là entre les deux héros, ça me convient pas, pourquoi est-ce qu'il est parti ou voilà, pourquoi est-ce qu'il lui a tapé dessus aussi éventuellement, et les auteurs répondent de façon assez violente en disant que de toute façon c'est elle qui décide. Et que si ça leur plaît pas, les lectrices ont qu'à aller lire d'autres chroniques. Voilà. Donc, en tout cas sur Wattpad. Voilà. Donc, ce qu'on constate quand même, c'est une relative autonomie dans les réactions que font les auteurs aux réactions des lectrices, et en même temps, on ne constate pas franchement de réorientation du discours. Par contre, on constate quand même, on va dire, une continuité dans l'orientation si la réponse est positive. Enfin, je ne sais pas si je...
Si, tout à fait.
Voilà. Donc, en fait, les réactions négatives ont l'air d'avoir assez peu de conséquences sur l'orientation du discours et déclenchent les foudres des auteurs, alors qu'effectivement, les réactions positives confortent en fait les auteurs dans l'orientation de leur discours.
L'amitié comme ressource, il y a certainement plein de films documentaires là-dessus, mais j'en sais rien, je ne vais pas répondre à la question, mais par contre le film s'est construit contre un film, pas contre, mais en se distinguant en rejet, qui est le film qui s'appelle La Cité du Mal, Mal, M, accent circonflexe, L-E, du coup qui est fait par Cathy Sanchez. Ce film-là donne une vision raciste de classe, de haine de classe vis-à-vis des quartiers populaires. Il a été très très critiqué, tant par le dispositif filmique que le fait qu'ils ont réussi à mentir, enfin ils ont menti aux personnes filmées, etc., etc. Donc ce film-là a marqué, je pense, beaucoup les esprits à la fois de la réalisatrice, à la fois des intervenantes filmées. Et du coup, il y a une attention aussi à ça. Et ce que je veux juste dire, de ne pas prêter le flanc à une critique, sous couvert d'une critique du machisme, à ne pas prêter le flanc à une critique raciste. En fait, c'est ça que... Voilà, il y a une attention très très claire de la réalisatrice à ça. Et donc, c'est pour ça. Et les hommes sont présents dans le film documentaire, les gracieuses. Ils sont évoqués. Et voilà. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas montrés qu'ils ne sont pas présents.
Merci, on va passer la parole à la salle s'il y a des erreurs.
Du coup, c'était je voulais savoir, vous disiez que vous essayez donc d'avoir accès à la production, au contexte de production, etc. Si jamais vous arriviez à avoir des entretiens, qu'est-ce que vous rechercheriez en fait? Est-ce que ce serait un éventuel lien entre le contenu donc de ces récits et la vie des auteurs, ou enfin comment, de quelle manière vous chercheriez à explorer du coup ces rapports de domination, etc., dans le processus de création? C'est quoi les hypothèses qui vous mènent à vouloir analyser la production du coup?
Alors, la première chose choses qu'on cherche à savoir, hein, c'est qui sont... C'est bon, vous m'entendez?
Oui, c'est bon.
La première question, en fait, qu'on cherche à savoir, c'est qui sont les auteurs? Parce qu'on a fait l'hypothèse que ce sont des jeunes filles, des cités, mais si ça se trouve, ce sont des hommes de plus de 60 ans qui vivent en centre-ville de Paris, enfin, dans le 16e arrondissement. Enfin, voilà. Donc, en fait, on cherche à savoir qui sont ces auteurs, alors auteurs ou auteurs. Et en fait, on cherche aussi à, effectivement, à voir la relative distance ou proximité avec le récit, et notamment avec les normes de masculinité, de féminité, et donc les processus sociaux de racialisation qu'il peut y avoir dans ces récits, notamment par rapport à l'islam et à ces questions de la virginité. Donc c'est surtout de voir, en fait, plus que la vie de ces auteurs, c'est la relative proximité avec ces normes-là et aussi leur modèle amoureux, en fait. Parce qu'au départ, le départ de l'étude, c'était ça, en fait. C'est quel modèle amoureux? Voilà.
Oui, on va prendre une autre question.
Oui, ça marche? Ça marche?
Ça marche, ouais. Faut que tu parles fort.
Alors, déjà, je voulais vous remercier tous les deux pour vos communications que j'ai trouvées passionnantes. Et j'ai une question pour Mélie Fraisse, qui semble s'être bloquée tout à coup.
Mélie, on ne te voit plus, mais je crois que l'audio est là. Donc,
Vous m'entendez?
Alors moi, j'entends pas bien.
Je vais parler plus fort. Là, vous m'entendez?
Oh. Ouais.
Alors, j'ai une question par rapport au roman Harlequin. Parce que pendant toute votre communication, vous comparez donc les Thug Love au roman Harlequin en disant, si j'ai bien compris, qu'il s'agit d'un sous-domaine du roman Harlequin. Et moi, il me semble que c'est pas forcément très clair qu'est-ce que c'est le roman Harlequin finalement, parce que quand on regarde sur le site de la maison d'édition, on voit qu'il y a plusieurs sous-genres. Et il me semble que certains d'entre eux présentent aussi des héroïnes attachées à la virginité, sans pour autant qu'il s'agisse d'arabité ou d'islam. Et donc ma question, c'est comment vous avez travaillé en fait pour pouvoir comparer à quoi vous avez comparé? Est-ce que vous avez étudié des romans Harlequin ou alors à quel modèle précisément, à quel sous-genre parmi le roman Harlequin vous vous référez?
Alors ça coupe un peu, donc j'espère que j'ai bien compris. En gros, c'est de dire que dans le roman Harlequin, il y a également des sous-genres. Pourrait définir comme ça. Nous on a surtout regardé les études qui avaient été faites des romans Harlequin, donc principalement Béatrice Damian-Gaillard, Michel Coquillat et les études d'autres romances, on va dire, d'autres formes de romances. Et pour le roman Harlequin, effectivement, il y a des héroïnes du roman Harlequin qui sont attachées à la virginité. Mais la fin du roman, c'est quand même le mariage et donc la perte de la virginité, ce qui n'est pas le cas des Thug Love. Les Thug Love peuvent se terminer par une séparation qui, a priori, va hanter la jeune fille toute sa vie. Hein, si on se souviendrait, elle s'est finie comme ça. Et la jeune fille, en fait, est toujours vierge à la fin, puisqu'il n'y a pas eu union entre le héros et l'héroïne. Quand même, le motif final de tout roman Harlequin, c'est le mariage, en fait. Donc ça, c'est la première des choses. Et effectivement, il y a des sous-champs, des sous-genres du roman Harlequin. Il y a même, je crois que même les romans Harlequin, il y a une ligne BDSM, je crois, hein, carrément. Ça, c'était plutôt la deuxième question. C'est quand même assez stéréotypé, c'est-à-dire que c'est la façon dont le commun des mortels se représente, donc soit le héros arabe, soit le héros, je crois qu'il y a un truc sur les vikings aussi, soit le héros viking, alors que dans les Thug Love, c'est quand même une description du héros, enfin, ou des jeunes garçons tels qu'ils sont dans la cité quand même. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien à la question posée, parce que ça a coupé.
Si, merci beaucoup Mélie. Alors on va juste prendre une dernière question parce qu'on a un tout petit peu en retard. Peut-être une question pour Gaëlle.
Ouais, alors je cumule mes différentes questions. Merci à tous les deux. Oui, sur Gaëlle, je reviens sur le dispositif filmique. Je me demandais, moi j'ai pas vu le film, alors du coup j'avais envie. Donc c'est des questions plus auxquelles vraisemblablement tu n'aurais pas répondu si on avait vu le film, mais tu semblais souligner que l'un des éléments intéressants dans le travail de réalisation de la réalisatrice, c'était cette singularisation des parcours. En tout cas, ce refus d'homogénéiser les discours et de justement travailler dans l'individualisation, ou en tout cas de ne pas noyer les différents portraits. Et je me demandais si ça s'accompagnait justement d'un dispositif filmique, parce que tu as montré l'intérêt du dispositif dans le travail de mobilité, de vitalité. Est-ce qu'il y a un dispositif filmique différent pour les portraits ? Est-ce qu'il y a une attention portée à ça ? Et deuxième question, mais liée, est-ce qu'il y a une invisibilisation du dispositif filmique ? Parce que sur les quelques plans que tu montrais, des séquences caméra, en caméra fixe, sur pied, etc., moi, je ne voyais pas de micro. Est-ce qu'elles n'avaient pas de micro-voix ? Est-ce qu'il y avait une perche ? Est-ce que c'est invisibilisé ou pas ? Voilà. Okay. Si tu peux en dire.
Oui, ouais, bien sûr. Sur le dispositif filmique qui permet de singulariser, deux choses. D'une part, elle fait des entretiens, elle filme des entretiens collectifs, donc avec les filles, qu'elle met en scène. La séquence avec l'album photo, c'est clairement la réalisatrice qui a amené les photos pour qu'elle parle de leur jeunesse. Donc là, elle a la vision collective et elle singularise en les prenant à part, en faisant des entretiens individuels dans leur lieu de travail. Donc ça permet de distinguer. Mais pour les individualiser aussi, elle a fait des entretiens préalables enregistrés juste au H4 à l'audio, quoi, pour les préparer, en fait, pour les préparer aux questions. Et pour, elle m'a dit pour pas les piéger non plus, en fait, et pour qu'elles aient déjà le discours déjà préparé. Voilà là-dessus. Donc il y a un dispositif là-dessus. Après, est-ce qu'on voit le dispositif filmique dans le film même ? Ça, justement, elle m'a dit qu'elle n'était pas au point là-dessus dans sa place en tant que réalisatrice. Et à un moment donné, on voit la perche, on voit l'ombre d'une perche. Ça, c'est un problème. C'est dans le cadre. Ça marche pas. On entend la réalisatrice qui rebondit à un certain moment. On ne la voit pas. Comme personne, elle est beaucoup moins présente que dans La Langue de Zara. Je ne sais pas si vous avez vu le premier film où là elle filme sa mère. Bon, mais c'est pas le but de filmer sa mère. Elle filme la poésie kabyle, la culture de la poésie kabyle, et du coup elle est beaucoup plus présente. C'est beaucoup plus voilà. Mais là c'est moins affirmé. Elle me dit qu'elle avait un entre-deux pas très bien réglé dans ce film-là de sa place à elle, qui est un enjeu pour les réalisateurs important. Voilà. J'espère que j'ai répondu.
Merci beaucoup pour vos communications, vos interventions, vos réponses. Et puis on va faire une petite pause. On se retrouve dans une petite vingtaine de minutes.